et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On reprend notre grand voyage aujourd'hui. Après une période agitée sur le plan sanitaire dans l'équipe, tout le monde va bien. Un grand merci pour vos messages. Aujourd'hui, un voyage dans le temps avec la musique du début des années 80 racontée par une Suissesse. Une enfance au Burundi avec un chanteur populaire et une escale dans les coulisses du petit monde du tennis. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Un petit retour dans le passé, donc, en 1979, avec la dessinatrice Hélène Becklin, qui raconte dans un roman graphique son adolescence tourmentée en Suisse, baignée par la musique de l'époque. Le chanteur et auteur Gaël Faye revient en librairie. Après le grand succès de son roman Petit Pays, adapté au cinéma, il publie un livre pour la jeunesse plein de poésie. Il vous offrira une lecture musicale sur notre plateau. En plein Roland-Garros, un dictionnaire amoureux du tennis vient tout juste de sortir, réalisé par l'écrivain Laurent Binet et l'ancien joueur-entraîneur Antoine Beneteau. Il regorge d'informations et d'anecdotes. On va vous raconter des histoires absolument incroyables. Voici donc pour le sommaire. Vous retrouverez bien sûr tous nos libraires tout au long de cette émission, des libraires en liaison depuis leur librairie en partie. Bonjour Yasmina Giaquinto.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie du Baobab à Martigny. Pourquoi le Baobab a-t-il donné son nom à votre librairie, tiens Yasmina?
Parce qu'il fallait un nom qui sortait un peu de l'ordinaire.
Oui.
Parce que le baobab représente aussi l'arbre de sagesse.
Ouais.
Et puis j'aimais l'idée qu'en Afrique, souvent, ben, c'est un petit peu là que les gens du village se rassemblent pour parler. Du coup,
pour palabrer.
C'est un bon endroit, exactement.
Et oui, et oui. Oui, on parlera
du coup, créer un lieu comme ça en ville, je trouvais ça assez intéressant.
On parlera des arbres aussi avec Gaël Faye tout à l'heure. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Vous aimez les baobabs aussi, forcément. C'est
oui.
Un ficus, vous, un immense
oui, voilà.
Ficus.
Oui, les baobabs ne poussent pas dans la région des Grands Lacs. Ouais. Mais j'ai grandi. sous un
arbre
aussi grand qu'un baobab.
Bon, à tout à l'heure Gaëlle. Déborah Damblon est avec nous aussi, elle représente la Belgique. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Et on vous retrouve aussi dans la version télé de la librairie francophone qui a lancé cette semaine sa troisième saison sur RTS2, RTBF La 3, ICI RTV et TV5 Monde. Toutes les infos sur le site internet de votre chaîne et sur mes comptes Facebook et Twitter, bien sûr. Bonjour Katia Courtois.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire au Canada, dans la librairie Le Port de Tête à Montréal. Tout va bien pour vous Katia?
Oui, ça va bien. Les librairies restent ouvertes, même s'il y a quelques commerces et en fait les restaurants et les bars qui sont refermés depuis.
Oui, c'est compliqué là en ce moment. Montréal est un peu ville morte avec tous ces bars et tous ces restaurants fermés. Bon, courage Katia, on est avec vous. Pour la France, on retrouve Anne-Rosine Vosa qui est libraire en Martinique dans la librairie Le Papillon Bleu. La Guadeloupe est dans une situation sanitaire critique en ce moment, un peu comme Montréal d'ailleurs. La Martinique va plutôt bien de ce côté-là pour l'instant. Anne, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel. Oui, la Martinique va plutôt bien, même si le nombre de cas augmente. On n'est pas encore au niveau d'alerte critique maximale.
Oui.
Donc on essaie de conserver des gestes barrières, de rester prudent.
Bon, on croise les doigts. Merci beaucoup d'être avec nous toutes les quatre. Vous allez rester bien sûr tout au long de cette émission. Et bonjour Hélène Becklin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. 1979, roman graphique est paru aux Antipodes. Un roman sur la fin de votre adolescence et sur ces musiques qui ont marqué la fin des années 70 et le tout début des années 80. On va commencer avec une musique que vous adorez, Hélène. Vous voyez de laquelle je veux parler?
Ah ben, j'attends de voir l'intro. Je verrai si
écoutez,
je découvre.
Écoutez donc ça. A home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Votre livre commence par ce titre de la comédie musicale Hair.
Ah oui, alors c'est sûr, je suis partie avant la fin du film, donc je connais pas ce que c'est.
Formidable film hein, que vous voyez avec votre classe et votre prof, ça a l'air de vous combler.
Oui, tout à fait, je suis heureuse là. J'ai les poils qui se hérissent.
Pourquoi vous ne l'aimez pas cette musique, ce film?
Je détestais tout ce qui se rapprochait au monde du hippie, sans connaître le mouvement punk, cette mollesse, cette gentillesse, cette coolitude m'exaspérait.
Bon, c'est vrai que vous habitez dans une petite ville suisse pleine de militaires et de religieuses. Donc déjà, il y avait quelque chose d'un peu particulier, d'un peu contradictoire. Drôle d'ambiance, quoi.
Ben, quand on vit dedans, on n'a pas l'impression que c'est étrange, mais c'est vrai que c'est une ville qui a du caractère et géographiquement, elle est aussi intéressante parce qu'il y a une grande falaise de 300 mètres qui surplombe la ville pour en plus agrémenter l'ambiance. Donc, il n'y a pas de soleil. Ça a forgé mon adolescence aussi.
Ouais, et votre caractère, vous dites, Hélène Becklin, pour l'instant, je sais ce que je déteste, pas encore ce qui me plaît. En même temps, c'est le principe de l'adolescence, de la fin de l'adolescence.
Oui, et en fait, c'est grâce à France Inter que ma vie a changé. C'était grâce à Feedback de Bernard Lenoir que j'ai entendu les premières notes de Joy Division, mais ça a changé ma vie.
Oui, qu'on salue Bernard Lenoir, grand producteur de la chaîne française France Inter. Bon, il y a ce nouveau groupe qui fait sensation, qui innove par la musique, le concept et même par la voix du chanteur. Alors vous, Hélène Becklin, vous n'aimez pas la voix de ce chanteur. Le chanteur, c'est Roger Hodgson.
Super Tramp,
l'un des plus créatifs de sa génération.
Ouais, moi je suis passée complètement à côté de tout ça. Tous ces groupes, je savais même pas qu'ils existaient. Je me suis retrouvée dans la cave chez des copines et je découvrais ça, j'aimais pas ça, quoi.
Ah ouais. Pourtant vous êtes curieuse quand même avec Super Tramp. Ça attire quand même votre curiosité. On se dit qu'il va se passer quelque chose quand même dans votre tête, sur le plan musical.
En tout cas, pas avec ça. Non, pas avec Supertramp, ça c'est sûr.
Bon, il y a un groupe que vous découvrez qui va vous fasciner au point de prendre le train pour Lausanne afin de trouver le disque chez un disquaire import comme il y en avait à l'époque. C'est les Clash. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de leur musique ?
Alors moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu London Calling des Clash, j'ai vraiment vu les murs de ma chambre s'écrouler. J'ai vraiment vu que ma vie allait changer et puis qu'elle allait aller vers le mieux, quoi. Qu'ils allaient m'aider.
Dans quel sens ?
J'ai découvert qu'il y avait des gens qui pensaient comme moi, qui avaient un bon look, qui avaient une bonne attitude sur scène, qui avaient un discours, qui avaient une vision politique, qui savaient faire plein de choses de leurs mains, qui se lançaient même s'ils n'avaient pas la technique, contrairement à tous ces groupes comme Supertramp qui jouaient très bien. Mais j'ai trouvé que c'était facile de voir ça, quoi.
Moi, c'était chouette, Supertramp. Bon, allez, on va vous faire plaisir quand même, Hélène Becklin. Vous êtes notre invitée. Voici les Clash. Les Clash, qui ponctuent ce roman graphique signé Hélène Becklin, publié chez un éditeur suisse, on y apprend beaucoup de choses sur la Suisse de l'époque. Les cinémas interdits de projeter des films violents ou érotiques, la tradition du bal nègre aussi pendant le carnaval, le bal nègre où on se grimait en noir. Racontez ça, Hélène.
Ouais, alors c'est pas dans toute la Suisse, c'était dans ma ville. Ouais. C'est très particulier et c'est vrai que j'ai hésité à le mettre, c'est quand même vachement choquant. Et ça existe plus, heureusement. Et en fait, c'est vrai que ma ville a un rapport avec l'africanité peut-être différente parce que notre saint était d'origine africaine et on était très fiers de notre saint, Saint-Maurice. Il y a peut-être un rapport différent avec le blackface qui est quand même... Bon voilà, j'ai hésité à le faire parce que c'est très particulier.
Bah, en tout cas, ça n'existe plus aujourd'hui, heureusement.
Heureusement, oui, ça n'existe plus, bien sûr.
Et là, on vous oblige à vous grimer en noir. Il y a des gamins qui s'approchent de vous et qui, pour vous embêter, vous mettent du cirage sur la tête, quoi.
C'est un petit peu plus que des gamins, c'est pour ça que j'aimais pas du tout ce genre d'ambiance, c'est qu'on pouvait se faire sérieusement embêter parce qu'on les reconnaissait pas. Donc c'est vrai que dans ma bande dessinée, je subis souvent des pressions dans la rue et je me révolte au bout d'un moment de ça.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on était une fille dans les années 80, c'est pas toujours facile et ça l'est toujours pas.
Ouais, et ça vous inspire un titre de circonstance.
Yeah.
la musique d'AC/DC qui illustre votre chapitre. Vous montrez aussi que les Suisses sont efficaces hein, dans le domaine de la violence avec le créateur du monstre Alien. Vous savez de quelle nationalité il est, Gaël Faye, le créateur du monstre Alien?
Non, j'imagine qu'il est suisse.
Ben, c'est ça.
Oui. Ouais, non, j'ai même eu la chance de l'avoir dans ma voiture une fois. C'est un homme charmant.
Qui est Alien ou le créateur?
Il était presque aussi impressionnant qu'Alien quand c'est on le voyait pour la première fois. Très imposant.
Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de ce livre, cette bande dessinée, roman graphique, un mélange en tout cas de tout ça, la Belgique, la France et le Canada. On commence par qui, Hélène?
Ah, je sais pas, je vous laisse le choix, c'est votre émission.
Bon, bah, écoutez, non, c'est la vôtre aussi, hein, celle de tout le monde. Allez, la Belgique, ça vous va?
Alors oui, bien, pour la Belgique.
Déborah Damblon, c'est à vous.
C'est à vous, Emmanuel, merci. Eh bien, pour une bande dessinée en plusieurs dimensions, je dois dire qu'en voici une belle. Parce que on se fait d'abord aspirer dans le passé par cette nostalgie un peu étrange, inquiétante et ciselée des illustrations. Et puis ensuite, on est bousculé d'un chapitre à l'autre par la bande-son. Et faire une bande-son qui résonne au point de retrouver les sensations exactes qu'on a eues en écoutant les morceaux avec juste des images et quelques mots, ben, chapeau pour le tour de force. Oui, ok, il y a un lien, mais moi je l'ai vu qu'après la lecture.
Ah oui, il y a un lien, j'ai pas vu moi. Il y a un lien pour écouter la musique?
Oui, oui, on a créé un site avec mon mari, avec tous les morceaux.
D'accord.
Mais bon, il n'y a pas Supertramp, il n'y a pas R.
C'est pas pour moi,
quoi. C'est ma sélection.
Mais en tout cas, il y a une liste incroyable à la fin du livre, avec plein de films, les faits marquants de l'actualité aussi de l'époque. C'est vraiment un retour en arrière, un voyage dans le temps. Allez, le Canada, Katia Courtois.
Oui, bah, écoutez, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Quel beau personnage j'ai trouvé dans la pulsion, plus forte que tout, et de s'écouter, de trouver sa place. Il a du caractère, le destin aussi tout en nuances et en clair-obscur et touchant, sans pour autant manquer d'humour. Et quel bon atout aussi que ce petit être qui accompagne partout l'héroïne, une très très belle réussite.
Mais c'est vrai qu'il y a un personnage qui accompagne l'héroïne en forme de barba papa, hein, c'est ça les personnages de l'enfance.
Oui,
c'est votre conscience, Hélène, en fait.
C'est un peu mon 10 000 crickets, ma dépression. Ouais. En fait, je voulais pas trop donner de rôle précis pour que tout le monde puisse se l'imaginer par rapport à son vécu.
Allez, Anne-Rosine Voza est en Martinique. On a des petits problèmes de liaison aujourd'hui. Hein. Vous l'avez entendu, pardonnez-nous. Les situations techniques sont compliquées en ce moment. La France, Anne-Rosine Voza.
Ben moi, j'ai adoré cette BD à plus d'un titre. Premièrement, parce que certains dialogues m'ont fait beaucoup rire. Deuxièmement, parce que je trouve très attachant ce petit personnage dont on vient de parler. Il la suit comme une ombre et l'auteur restitue les souvenirs d'adolescence avec beaucoup de recul, ce qui dédramatise complètement le mal-être de l'adolescence et qui donne une impression de légèreté.
Voilà, la vie des libraires, Hélène Becklin, avec ses goûts très différents que vous montrez avec vos frères, votre frère et votre sœur. Votre frère est fan de Frank Zappa, elle c'est plus les Bee Gees. Et un jour vous décidez de vous couper les cheveux, de vous les teindre en noir et vous arrivez comme ça au dîner. Mais on ne vous blâme pas, à part votre frère qui est un peu en colère.
Bon, il trouvait que j'avais des goûts de chiottes. Quand on écoute Frank Zappa, c'est sûr que les Ramones, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Non mais c'était assez libre hein, dans votre famille quand même.
Oui, j'étais une chouette famille. C'est vrai que je pouvais même pas me révolter contre mes parents quand on est adolescent. C'est peut-être le pratique, mais là, je n'avais même pas cette solution pour être fâchée. Donc, je me fâchais après, c'est tout.
Bon, puisqu'on parle de votre frère, Hélène Becklin, une pensée pour votre frère défunt, Philippe Becklin, alias Mix et Remix, grand dessinateur et caricaturiste pour la presse suisse. Nous l'avions reçu plusieurs fois ici, et notamment après l'attentat de Charlie Hebdo, en solidarité avec des mots très justes. Il a toujours défendu la liberté d'expression. Il a eu des problèmes lui aussi avec certains de ses dessins, c'est arrivé?
Je crois pas. En fait, c'était assez amusant parce qu'il y a certains dessins, je crois qu'en France, il aurait jamais osé les publier. Et en Suisse, il avait aucun problème.
Ouais, ouais, c'est ce qu'il disait, qu'il avait la possibilité en Suisse de s'exprimer pleinement. En ce moment, il y a le procès très médiatisé, la célébration des 50 ans de Charlie Hebdo. Le 23 novembre 1970, le premier numéro de Charlie paraissait. Depuis, l'Hebdo n'a jamais cessé de faire parler de lui. Que pensez-vous, Hélène Becklin, de ceux qui hésitent à honorer aujourd'hui la mémoire de ces dessinateurs et collaborateurs tués par ces minables barbares?
Alors je trouve ça très triste, c'est sûr que je trouve incroyable en quelques années comme on peut changer d'avis. Tout le monde était pro Charlie, puis après maintenant c'est un peu ouais, je sais pas trop et tout. C'est assez fou comme l'opinion peut évoluer rapidement et c'est très triste.
Vous continuerez à défendre cette mémoire?
Oh ben oui, ben moi j'ai plein d'amis caricaturistes, dessinateurs de presse, suisses romands que j'apprécie beaucoup. Ben des fois on a un peu peur pour eux aussi, c'est sûr. Et j'avais peur pour mon frère aussi, qu'il aille trop loin, ou même pas trop loin, mais qu'un dessin plaise pas à un fou furieux, ça faisait toujours un peu peur.
Mais malgré la peur, on résiste, quoi.
Oh ben oui, et puis pensait pour mon frère, c'était une passion, il pensait qu'à ça, même gravement malade, il s'y était remis, parce qu'il adorait ça, quoi.
Bon, je pense à lui, Mix et Remix, qu'on aimait beaucoup ici, et puis on pense aussi à Cabu et Volinsky, amis de la librairie francophone, dont je continuerai à honorer la mémoire indéfectiblement. Vous retrouverez d'ailleurs Maryse Volinsky dans la version télé de la librairie francophone diffusée cette semaine et ce week-end sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV de Radio-Canada, et puis sur TV5 Monde ce dimanche à 19h. Merci beaucoup Hélène Becklin.
Merci.
1979, lisez ce livre. Ça m'a fait penser à Michel Rabagliati, pour ceux qui connaissent, qui est un grand auteur de bande dessinée québécoise. C'est un peu même le même esprit, mais dans une version suisse. Merci Hélène. Votre livre est paru aux éditions Antipode. Gaël Faye, dans un instant, dans la librairie francophone pour un livre jeunesse sublime et une lecture musicale en plateau. Et puis, tout à l'heure, le dictionnaire amoureux du tennis avec une histoire incroyable sur un célèbre tennisman. Incroyable. Restez avec nous. Pour l'heure, on écoute le tout nouveau titre de Gaël, extrait d'un album qui sortira le 6 novembre. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. Respire.
Respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face. Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Respire.
Le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
C'était le nouveau titre de Gaël Faye dans la librairie francophone avec Respire.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et Gaël Faye est avec nous pour un livre jeunesse d'une rare poésie. L'ennui des après-midi sans fin est à l'origine un texte musical sorti sur votre premier album, Gaël.
Oui, tout à fait. C'est la chanson qui clôture l'album Pili Pili sur un croissant au beurre.
Oui.
Et qui était une chanson importante pour moi parce que c'était un album sous forme de chronique autobiographique et je racontais l'exil, je racontais le métissage, je racontais la guerre. Et à la fin des 14 titres de l'album, j'étais en mix, je me disais, il manque quelque chose à cet album. Mmh. Et ce qui manquait, c'était les années que j'avais vécues avant la guerre qui n'étaient pas là. Et je me disais, c'est pas possible de se présenter au monde seulement à travers le prisme de ce qui fait mal. Mmh. Et donc j'ai rajouté cette chanson et ça a été un combat parce que la maison de disques ne voulait pas de cette chanson un peu hors format, un peu trop longue, trop poétique.
Poésie, ouais. C'est difficile. Mais il faut résister là aussi. Hein. Vous avez résisté. Alors c'est incroyable, Gaël, parce que je le connais très bien cet album. On l'a soutenu dans d'autres émissions ensemble. Enfin, ouais. Voilà, je vous suis depuis très longtemps, depuis le tout début, aussi bien sur le plan musical que littéraire. Et je me suis plongé moi dans la chanson pour vérifier parce que j'ai vraiment cru que vous aviez adapté la chanson finalement pour un livre jeunesse et pas du tout. Donc dès le départ, vous aviez écrit comme ça ce morceau de votre enfance passé au Burundi avec votre maman réfugiée au Burundi car Rwandaise Tutsi et votre père était un scientifique français qui travaillait lui au Burundi. Vous dites que dans votre enfance, vous avez eu la chance de vous ennuyer.
Oui, c'est vrai. C'est drôle à dire aujourd'hui parce que pendant l'enfance, c'était pas une chance, au contraire. Je n'allais pas à l'école l'après-midi, pour une raison que j'ignore, mais je crois que parce qu'il faisait trop chaud, donc on n'envoyait pas les enfants à l'école l'après-midi. Donc on restait à la maison, et ça me paraissait interminable ces après-midi. Et il n'y avait pas de télé à la maison, il n'y avait pas d'écran, donc on était vraiment livrés à nous-mêmes. En plus, les adultes vraiment ne se souciaient pas de nous. Je veux dire, moi je vois comment je suis avec mes enfants aujourd'hui. Quand je vois qu'elles s'ennuient, parfois j'essaye de leur trouver des activités. Nous, c'était vraiment débrouillez-vous. Et donc, on a dû apprendre
à s'ennuyer.
À s'ennuyer, donc c'est-à-dire s'ennuyer, c'est habiter ce temps sans impératif.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? Donc c'est trouver son propre tempo.
On va sous les arbres, parce que dans le jardin de la maison, il y avait des manguiers, des goyaviers, des papayers et plein de serpents.
Oui. Oui, mon père était herpétologiste, c'est-à-dire spécialiste de reptiles. Et donc, le week-end, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait capturer des serpents avec les pygmées du Burundi dans la forêt. Et puis on les ramenait à la maison.
Dans le jardin.
Et lui, il les exportait beaucoup à l'étranger, d'ailleurs beaucoup au vivarium de Lausanne. C'est des serpents qui étaient soit utilisés dans des vivariums ou bien pour les laboratoires,
pour la recherche,
pour le venin. Ouais. Donc. Et il y avait... Enfin, je pense qu'il y avait plus de 300, 400 serpents
dans le jardin,
sur la parcelle, oui. Dans des cages, dans des aquariums, oui. Il y en avait partout. Et puis la particularité du Burundi, c'est qu'il y a beaucoup de serpents venimeux mortels.
Ouais.
Donc j'avais aussi ce problème-là, c'est que les copains ne venaient pas chez moi.
Oui, en plus. Vous avez été mordu par un serpent, non, jamais ?
Oui, j'ai été mordu. Heureusement, jamais de venimeux mortel.
Ah bon,
mais mon père a une partie de la main paralysée parce que lui il a fait plus.
Bon, on le disait tout à l'heure, il y a un arbre que vous aimez particulièrement, un ficus géant. Pas le ficus qu'on a à la maison, hein, dans les appartements, rien à voir, un arbre majestueux. Et il y a des dessins d'Hippolyte qui sont vraiment parfaits pour cette histoire. C'est très rare d'ailleurs qu'il soit autant en symbiose avec le texte. Il a tout à fait compris l'univers et les arbres sont sublimes dans ce livre.
Oui, cette rencontre, elle est incroyable avec Hippolyte parce qu'on se suit un peu en pointillé depuis plusieurs années. Et donc là, quand on a eu cette idée-là, grâce aux arènes, à l'éditrice, c'est Mourina qui nous a mis en relation, ça a été fabuleux parce que vite fait dans la conversation, on s'est rendu compte qu'on avait eu la même enfance.
Bon, allez, on va voir les libraires, Gaël Faye. Vous savez que dans cette émission, il y a des libraires, la Suisse et la Belgique. On va commencer avec la Suisse, tiens, puisque votre papa a exporté des serpents à Lausanne. On va y aller. Yasmina Giaquinto.
Oui, Gaël, vous nous caressez l'âme et on se laisse bercer dans votre univers. Les illustrations d'Hippolyte contribuent à laisser ce quelque chose de non défini et de doux. Vous clamez merveilleusement ces souvenirs et en peu de mots, vous rythmez la mélancolie de cet après-midi qui aurait pu être un peu le mien à l'âge de votre petit prince. Et quelle chance nous avons de pouvoir profiter de ce coffre-fort de votre imaginaire que vous déversez à petites gouttes.
Merci.
La Belgique, elle est poète aussi, Yasmina. La Belgique, Déborah Damblon.
Moi, j'ai envie de demander, qui a dit qu'il faut beaucoup de mots pour que ce soit de la littérature, hein ? Et qui a dit que les histoires illustrées, c'est que pour les petits? Hein? Et franchement, qui a osé dire, qui a même osé penser que les histoires pour la jeunesse, c'est léger et c'est facile? Qu'est-ce que je peux ajouter après une pépite pareille?
Rien, merci Déborah.
À ce modèle de retenue, de justesse, de... voilà, j'arrête Emmanuel. Tout, voilà, vous avez tout dit avec très peu de mots, c'est juste magnifique.
Bon, Gaëlle Faye, vous allez lire en musique une partie de ce livre pour enfants. Vous qui nous écoutez, fermez les yeux. Sauf si vous êtes en voiture, hein. Si vous conduisez, vous gardez les yeux ouverts, hein, qu'on n'ait pas de problème. Imaginez tous une maison en briques rouges, ouverte au vent. Un jardin verdoyant avec des oiseaux qui chantent, des enfants qui jouent en short et débardeurs. Imaginez tout ça et écoutez Gaëlle Faye dans notre studio qui vous raconte son histoire.
Un cimetière s'est formé, entre naco et moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le kasoukou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayons de soleil en suspension, filaments de poussière dans l'air qui traverse le salon. Pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence, petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence, dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques, à l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique, petit garçon, genoux cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux. Les excursions chevaleresques, les fous rires, les pactes de sang. Copain, ça compte, copain, ça reste. Copain, c'est d'abord un mot d'enfant.
Gaëlle Faye, dans la librairie francophone, avec Laurent Binet, tout ému, là au fond du studio. Antoine Bento aussi, qui vont nous rejoindre dans un instant pour parler de tennis. Cet extrait de l'ennui des après-midi sans fin. Copain, c'est d'abord un mot d'enfant, Gaëlle. C'est vrai qu'adulte, on ne dit plus copain.
Ouais, on dit pote.
On a des copains pourtant.
Ouais, on a des copains. Mmh. Oui, mais je crois que les copains qu'on se fait dans l'enfance... C'est particulier, ça reste.
Ouais. Vous dites à un moment aussi, j'écris des lettres à une maman, à une absence. Apprendre à faire avec, c'était apprendre à faire sans.
Ouais.
Et vous l'avez rejoint plus tard,
oui.
Quand vous avez 12-13 ans, parce que ça se complique en fait, au Burundi, à cause du génocide rwandais voisin.
Et de la guerre au Burundi.
Et de la guerre au Burundi. Ouais. Donc votre papa vous... expatrie ou vous rapatrie, votre maman est déjà partie, elle est du côté de Versailles.
Oui.
Vous vous êtes senti expatrié ou rapatrié, tiens?
Exilé. Ouais. Et ce mot-là, exilé, je l'ai appris grâce au poète haïtien. C'est comme ça que je suis tombé un jour sur ce mot parce que je ne savais pas. Rapatrier, ça veut dire retourner dans sa patrie. Mmh. Mais effectivement, mon père était français, mais j'étais né, j'avais grandi au Burundi. Le seul pays que je connaissais, c'était le Burundi. Donc ce mot-là ne me correspondait pas. Et donc quand j'ai compris ce mot exilé à travers la poésie haïtienne, je l'ai pris à mon compte.
Mmh. Bon, dans votre roman Petit Pays, Prégoncourt des lycéens, adapté au cinéma, sorti récemment d'ailleurs, vous racontez déjà cette histoire et cette enfance au Burundi inspirée par votre vie. Que souhaitez-vous raconter aujourd'hui? Est-ce que vous allez publier à nouveau, Gaëlle?
Ah oui, tout à fait. Ah oui. Je travaille sur des romans. Et c'est vrai que la musique, ça alimente mon écriture romanesque. Vous voyez, je pense qu'il n'y aurait pas eu le roman Petit Pays sans cette chanson L'ennui des après-midi sans fin.
Ouais, c'est sûr, ça. Ouais. Ouais. On va aller en Martinique, pas très loin d'Haïti. Ça vous va?
Ah, ça me va très bien.
Allons-y, avec Anne-Rosine Vosa, qui est notre libraire sur place et qui a lu évidemment ce livre L'ennui des après-midi sans fin. C'est à vous, Anne.
Oui, j'ai trouvé que c'était un magnifique album et avec une magnifique histoire parce que Gaëlle Faye sait y faire pour nous émouvoir. J'ai trouvé dans cet album une atmosphère qui m'est familière, la chaleur accablante des après-midi tropicaux, la torpeur qui ralentit, qui rend l'instant propice à la rêverie et le temps long qui encourage l'imagination. Le choix des couleurs restitue cette douceur et la simplicité des après-midi dans les jardins des pays chauds.
Oui, c'est vrai. Merci. Tout est là, dans la couleur aussi. Vous écrivez, enfin vous avez dit plutôt Gaëlle, dans la famille, nous n'avons pas pour habitude d'étaler nos états d'âme. C'est peut-être pour ça que je me suis mise à écrire, pour dire des choses qui ne sortent pas autrement.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que tout ce que je raconte n'avait pas vocation à exister, à que les gens puissent connaître cette histoire. Je veux dire, même l'histoire du Burundi, au-delà de ma famille, c'est des histoires qui sont tues. Je viens d'un pays qui ne se dit pas.
Et oui. Bon, merci Gaëlle. Vous avez un grand talent d'écriture. Je vous l'ai déjà dit, mais ne lâchez pas ça. La preuve avec ce texte, mise en dessin pour les enfants, l'ennui des après-midi sans fin, c'est sublime. Merci. Même les adultes et tous les copains des adultes vont adorer. Merci beaucoup Gaëlle. Vous restez avec nous. Vous adorez le tennis, je crois.
J'ai fait du tennis. Je me suis essayé pendant les après-midi sans fin à Bujumbura. Ouais.
Bon, votre livre est paru aux Arènes. La librairie francophone vous emmène dans l'univers du tennis, donc avec Laurent Binet et Antoine Beneteau. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ce livre est génial aussi. Et en plein dans l'actualité, en plus, vous racontez tout ou il vous en reste des histoires?
Oh, il y en a toujours. Oui, c'est inépuisable. Ouais. On ne prépare pas encore le tome 2.
Ouais, mais on pourrait, ouais. En tout cas, il y en a plein des histoires. On va en raconter. On va vous raconter notamment une histoire autour de Yannick Noah incroyable. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Moi, j'ai relu le passage 3 fois. Voici le groupe La Femme tout de suite dans la librairie francophone. C'était le groupe La Femme avec Paradigme.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
En plein tournoi de Roland-Garros, nous parlons du dictionnaire amoureux du tennis qui vient de paraître aux éditions Plon. Laurent Binet, les clients fidèles de librairie vous connaissent pour vos romans. Je sais pas combien il y en a de H. 6, 5?
Non, 4, c'était très bien.
C'était ça. Prix Goncourt du premier roman, La septième fonction du langage aussi, ou encore Civilisation, l'an dernier, qui a bien marché. Antoine Beneteau, vous êtes ancien joueur de tennis, entraîneur de Julien Beneteau, producteur et consultant aussi. Et un jour, vous décidez d'arrêter le tennis. Vous jouez un match au tournoi de Comitán au Mexique. Vous faites 20 doubles fautes.
Ouais.
Et alors, en plein match, vous prenez la décision d'arrêter.
Ouais, en fait, j'ai commencé le tennis parce que c'était la chose qui me rendait le plus heureux au monde. Et en faisant la chose qui était censée me rendre le plus heureux au monde, j'étais le plus malheureux. Donc je me suis dit, c'est plus possible. Et c'est là que j'ai pris la décision vraiment en plein milieu d'un match d'arrêter le tennis professionnel. Mmh. Et puis après, je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, c'est de raconter des histoires. Donc j'utilise le tennis pour en raconter.
Oui, c'est ça.
Et la preuve, on est avec le dictionnaire.
Quel promo magnifique, Antoine. C'est Mats Wilander qui disait que l'indicateur ultime de la dépression chez un joueur de tennis, c'est quand vous êtes sur le court et que vous ne ressentez plus le besoin viscéral de la victoire.
C'était, je ne pensais plus à ça. Je pensais à me dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer d'être un peu moins malheureux? J'ai eu un peu de laisser aller durant cette semaine. On peut parler un peu de dépression, de burn-out. Mmh. Et donc voilà.
Ouais, d'ailleurs, c'est au mot burn-out que vous racontez ça. Burn-out. L'entrée burn-out. Il y a plein de choses dans ce dictionnaire, Laurent Binet. Tous les grands joueurs sont nommés, racontés, disséqués, critiqués parfois. Comme ce pauvre Autrichien, Dominic Thiem, numéro 3 mondial, je le signale, le beau gosse du circuit, qui en prend pour son grade. Vous l'aimez pas du tout, Dominic Thiem?
Non, c'est pas ça. Si, j'aime bien Thiem, et d'autant plus que c'est peut-être lui qui, c'est peut-être le seul en ce moment qui peut empêcher Nadal de rejoindre Federer. Oui. Mais il a eu des. Au moment du confinement, pendant la crise sanitaire, il a dit que non, lui, il aiderait pas les joueurs classés au-delà de la 101ère place.
Ouais.
Parce qu'il estimait qu'ils avaient qu'à s'entraîner plus pour être mieux classés.
Mais c'est impitoyable, ce monde-là.
Voilà, donc j'ai pas trouvé ça très sympathique de sa part, mais je souhaite quand même qu'il gagne cette année.
Bon, le caractère des joueurs, c'est parfois très particulier. Leur tic, leur superstition. Raphaël Nadal, célèbre pour ses superstitions, la bouteille bien placée, la serviette, les gestes, le slip avant de servir, des choses comme ça. Et puis, il y en a qui hurlent sur le terrain. Pas du tout pour les raisons de leurs efforts, juste pour insulter l'arbitre.
You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up. It was clearly it. How can you possibly call that out?
Bon, c'est en anglais.
C'est le dieu de Laurent.
C'est le dieu de Laurent Binet. Ouais. John McEnroe, que vous avez reconnu dans ses œuvres. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, on ne peut plus insulter les arbitres comme il le faisait parce qu'il y a les Franco. Hein.
Ouais, enfin tout le monde dit ça, mais vous vous souvenez quand Serena Williams a hurlé sur la juge de ligne en lui disant je vais t'enfoncer cette balle dans la gorge. Ouais. Bon, elle a eu un ou deux points de pénalité, mais enfin elle a fini le match quand même. Ouais. Donc c'est pas tout à fait vrai que c'est plus comme avant, que etc etc. Les joueurs d'aujourd'hui ont aussi du tempérament, mais McEnroe, bon, c'était il a porté ça à un niveau qui est artistique, quoi, si vous voulez.
C'était artistique et surtout il arrivait à gagner en faisant ça. C'était ça sa force.
Des joueurs adorables aussi, hein, comme l'Iranien Mansour Bahrami, qui pouvait faire un ace avec la tranche de sa raquette.
Ben non, mais c'est incroyable.
Il fait le geste.
C'était lui, c'était les Harlem Globetrotters à lui tout seul. Ouais. Quoi. Donc c'était, il était spécialisé dans les trick shots. Et il faisait, quand il était jeune, un truc incroyable. Il jouait contre des joueurs de niveau 31, donc faible, mais quand même qui savaient renvoyer la balle. Et il leur pariait qu'il allait les battre avec une raquette sans corde. Mmh. Sans corde, juste en jouant avec le cœur ou la tranche de la raquette. Donc il était fort, lui. Hein.
Bon, Björn Borg, c'est Jésus. Il prend sa retraite à 26 ans hein, seulement. C'est vrai qu'on a oublié ça. Mmh. 26 ans avec quelques tentatives de retour avortées, mais 26 ans quand même. Roger Federer, c'est le dieu selon vous? Alors je sais pas si c'est Antoine Benneteau.
On a fait tous les, en fait, sur les gros joueurs comme Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, on a tous les deux fait une entrée parce qu'on s'est dit qu'il méritait au moins deux entrées.
Bah oui, c'est pour ça qu'il y a un et deux, j'avais pas compris.
Voilà, exactement. D'accord. C'est pour ça. Ouais, Roger a fait passer le tennis dans une autre dimension, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de performance. Et après, ben bien sûr, Rafael Nadal est arrivé un peu après, mais a essayé et a été inspiré grandement par la domination de Federer. Et donc, c'est ça qui a créé cette ère des trois monstres qui sont en train de, bah voilà, de dominer le tennis et de, ils nous font vivre les plus grands moments du tennis.
Quoi. Le bon, la brute et le truand, on va venir ensemble, bien sûr. Voici le témoignage de Dieu, ça va vous faire plaisir.
Moi, j'avais le rêve aussi d'être un grand joueur de tennis un jour, de venir d'un petit pays comme la Suisse. Pour moi, c'était assez compliqué, je dirais, au début, en fait, parce que comme je suis peut-être un joueur un tout petit peu nonchalant, on a l'impression, on voit que quand je joue, il y a, c'est avec pas beaucoup d'effort, on dit, pas sur problème, c'est derrière, je suis devenu méga calme, trop calme. En fait, je faisais des coups incroyables, normal. Souvent, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai perdu. À la fin, c'est assez simple, mais j'ai appris ça par beaucoup, beaucoup d'années qui ont passé, beaucoup de matchs.
Je faisais des coups incroyables, normal. Moi, il m'a toujours épaté pour ça, Roger Federer. Hein. On l'aime beaucoup ici, et puis on va voir avec la libraire suisse qu'évidemment, tout le monde aime Roger Federer. Mais il a un petit côté comme ça, un peu condescendant parfois.
Il a une mégalomanie très décontractée.
Oui, c'est ça. Bon allez, la Suisse, allons-y, elle va rattraper ça. Yasmina Giaquinto.
Oui, imaginez ma curiosité toute helvétique de découvrir ce dictionnaire que j'ai déjà d'ailleurs offert à ma maman, fan invétérée de Roger.
Eh oui.
On s'amuse à lire des anecdotes, on se souvient des gloires du tennis mondial. Tout n'est bien évidemment pas toujours objectif et j'avoue que j'ai eu plus de mal à vous lire lorsque vous relatiez votre propre récit. Vous m'avez parfois un peu perdu en route.
Bah, ils se sont fait plaisir, hein, ils l'ont dit. Hein. C'est vrai que sur certains joueurs, ils sont tous les deux à intervenir. C'est pour ça qu'il y a une partie, une deuxième partie. Bon, le Canada, Katia Courtois, le tennis chez vous, bof bof à l'origine?
Bah, c'est pas une passion, non, pas pour le Québec ou le Canada, mais je parle en mon nom, oui. Évidemment. J'ai eu un peu peur de m'ennuyer, oui, effectivement. D'abord par ce sujet qui ne m'a jamais donné donc aucune sensation, mais à culpa, j'ai toujours été une inculte du tennis. S'ajoute à ça l'aspect formel du dictionnaire qui n'avait rien d'excitant a priori pour ma part. Et pourtant, votre ouvrage est totalement équilibré, évidemment instructif, mais aussi vif, personnel, rempli d'humour et d'émotion. Je me suis même surprise à visionner des matchs avec beaucoup d'intérêt depuis ma lecture. Alors, merci messieurs. Le tennis fait maintenant partie de ma vie.
Contrat rempli.
Antoine Benneteau, vous vous rendez compte?
Ouais, on est ravis.
Des rediffusions de matchs, incroyable. Vous racontez ce jour où André Agassi, qui portait une perruque hein, au début de sa carrière par complexe capillaire,
ouais.
qui perd en quart de finale à Roland-Garros sur le court central, sans doute à cause de Bill Clinton.
Oui, il jouait contre Sébastien Grosjean et Agassi est en train de vraiment dominer le match. Il mène 2-7-0, je crois. Et il y a Bill Clinton qui arrive dans la tribune présidentielle à côté du président de la Fédération Française de Tennis. Et bien sûr, les gens reconnaissent Bill Clinton, donc il y a une ovation et tout ça. Juste après l'arrivée, ça a vraiment été automatique. Agassi n'en a plus mis une.
Il perd ses moyens.
Et Sébastien Grosjean a remporté le match très facilement derrière.
Qu'est-ce que vous pensez de ce court central I2 de Roland-Garros avec ce toit rétractable qui a coûté 53 millions d'euros?
Moi, je l'ai pas vu encore.
Vidi comme ça.
Non, ben je crois que c'est quand même bien. Enfin, c'est-à-dire, ce qui vient avec le toit, c'est l'éclairage aussi.
Ah oui, en plus.
C'était quand même, c'était quand même un petit peu archaïque à la tombée de la nuit.
Mais c'était l'âme de Roland Garros, Laurent. L'âme de Roland Garros.
L'âme, c'est de pouvoir jouer, qu'il vente, qu'il pleuve. Moi, je suis très content que ce soit un peu modernisé.
Bon, tant mieux. Et bon. Antoine aussi.
Ouais, bien sûr. Hier.
Vous avez intérêt vous à dire ça. Oui.
Non, même pas. Mais c'est même aussi par rapport aux autres tournois du Grand Chelem. Les autres tournois ont des toits sur plusieurs cours. Il fallait qu'à Roland Garros il y en ait un et encore plus avec la météo qui est capricieuse parfois chez nous.
Bon, dans un instant, je vous raconte l'histoire incroyable de Yannick Noah. Juste avant, dans le circuit, donc on le disait, il y a le bon, la brute et le truand. Le bon, on a compris. La brute, c'est le meilleur, Rafael Nadal. Et le truand, je cite bien sûr, c'est ce sympathique Djokovic. Et vous dites. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout un peu. Personne n'est vraiment pour Djokovic, ni contre.
Oui, bah c'est vrai. Là, je me suis, enfin, la dernière radio qu'on a faite avec Antoine, je me suis rendu compte qu'au bout de 40 minutes sur une heure, on n'avait pas prononcé le mot de Djokovic. Et évidemment, on avait, ah oui, Federer, Nadal.
Ouais.
Ouais, bon, Djokovic, moi, je trouve que on s'en fichait un peu, mais là, vu les dernières bêtises qu'il a commises, c'est prise de position anti-vax, il commence à m'être un petit peu antipathique carrément. En
fait. Avec le coronavirus
ouais.
aussi,
ouais. Ouais,
c'est ça.
Ouais,
il a organisé un tournoi, en fait, faut le dire, un tournoi d'exhibition.
Où il a contaminé tout le monde.
Ouais.
Son père, je crois, a accablé le pauvre Dimitrov parce que c'est le seul qui est vraiment tombé malade. Et puis, il a pas l'air très, très. Donc, c'est-à-dire qu'on savait qu'il avait un peu des gourous, qu'il était un peu new age.
Ah oui.
Et ça dérangeait personne. Mais là, dans un contexte sanitaire, tendu, c'est plus ennuyeux. Quoi.
Antoine Benetton.
Et puis aussi, il passe après parce que je pense vraiment que pour les fans de tennis, il y a eu de la place pour Roger Federer. Il y a eu un tout petit peu de place qui est restée pour Rafael Nadal.
Oui.
Et le pauvre, il est arrivé après. Mmh. Et il n'y avait plus de place.
C'est vrai.
Et donc, il est dans cette position qui est vachement dure. Et il essaye, on voit qu'il force. Il force pour essayer de gagner l'amour des gens.
Mmh. Vous connaissez Justine Hénin, Gaël Faye?
Oui. Enfin, oui, je connais de nom. Je me souviens.
Alors moi, elle me fait penser un peu à ce côté sympathique qu'on a accordé à Djoko, hein, au début. Djokovic, on le trouvait très sympa. C'est vrai qu'il jouait avec le public comme ça. Il est très talentueux. Il est élégant aussi. Sympathique, élégante. C'est Justine Hénin. C'est une grande joueuse qui est aujourd'hui consultante.
Ouais.
Je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'elle. Écoutez, Justine Hénin.
C'est ce qui m'a amené à vouloir faire ça, c'est le jeu, c'est le plaisir de taper dans une balle. Moi j'avais, après c'était contre le mur de la cuisine à la maison, j'avais ma toute petite raquette, et puis ça a été dans un club, et puis un jour, je crois que justement par rapport à cette question du jeu, je me suis posé cette question-là, parce que j'ai eu le sentiment de perdre un petit peu de cet amour du jeu. Et maintenant que j'ai arrêté, d'avoir ce plaisir de sentir cette balle sortir de la raquette et me réconcilier avec cette part de jeu, quelque part. Et ça, c'est un bon sentiment.
Voilà, les vrais joueurs, le plaisir du jeu.
Pendant sa carrière, elle avait une image un peu controversée, elle était un peu très timide. Tout ça.
Oui.
Je trouve que depuis qu'elle a arrêté, j'ai eu la chance de l'interviewer pour une émission que je fais qui s'appelle Échange, c'est en podcast. j'ai vraiment rencontré une femme qui a pris le temps de faire le bilan de sa carrière, d'analyser pourquoi elle avait pas eu la sympathie qu'elle aurait pu avoir.
C'est vrai. Il y a aussi Steffi Graf, l'une des seules joueurs et joueuses confondues, vous l'expliquez dans le livre, on oublie ça aussi, qui a réussi le grand chelem. Ils ne sont que 5 dans l'histoire du tennis à avoir gagné dans la même année, donc, les tournois de Melbourne, l'US Open, Wimbledon et Roland-Garros. On termine avec Yannick Noah. Cette histoire est incroyable. C'est en 1988. Yannick Noah enchaîne les blessures et on lui recommande d'aller voir un médecin en Allemagne. Antoine.
Oui, il va voir le médecin du Bayern Munich. Et c'était à l'époque où, vous savez, il y avait ce mythe autour de l'Allemagne qui gagnait tout, les sports par équipe et tout ça. Et donc, il va voir ce médecin. Et donc, il le soigne de façon particulière. Et puis aussi, Yannick lui pose la question, mais comment vous faites pour tout gagner comme ça? Il dit, moi, au Bayern, voilà ce que je fais. C'est avant les gros matchs, je donne aux joueurs un peu de café et du cognac. Donc, il appelle ça café-cognac pour le côté électrisant du café et le cognac pour un peu apaiser les ardeurs. Et puis donc il repart avec cette idée, il joue le tournoi d'après et là il joue Boris Becker en salle et il dit je suis plus faible que lui, j'ai pas les armes pour le battre. Et donc il prépare sa petite fiole de cognac dans son sac et tout ça. Et là il se dit au moment opportun je vais le boire. Et donc il arrive au troisième set et là il y a 6-5 au troisième set, c'est à Becker de servir, et il se dit si je vais au tie-break je vais perdre. Et là il prend dans son sac et il se fait la rasade de cognac. Et donc là ils sont au changement de côté, ils doivent se croiser et au changement de côté, il y a Yannick qui souffle carrément dans la tête de Becker et qui lui souffle son haleine remplie de cognac. Il gagne le jeu, il le break, il gagne le match et au filet, au moment de la poignée de main, il y a Boris Becker qui dit Yannick, You are drunk? Est-ce que t'es bourré? Il lui pose la question.
C'est ça. Et donc, il l'a fait plusieurs fois.
Exactement.
Il a fait le café cognac à la fin des années 80. Quand vous avez vu jouer Yannick Noah, il avait pris un café et il buvait du cognac. C'est incroyable.
Et Boris Becker ne lui en a pas voulu puisqu'il a appelé un de ses enfants Noah. Donc
oui, c'est ça. Merci beaucoup Antoine Beneteau. Merci d'être venu dans la librairie francophone. Laurent
Merci
Binet,
beaucoup.
À très bientôt pour l'un de vos romans. On se fait cette promesse. À bientôt Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc le dictionnaire amoureux du tennis est paru chez Plon.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Eh oui, Emmanuel, pour le dernier livre de Marie Chartres. Marie Chartres, elle est bretonne de naissance, elle est belge d'adoption, mais quand on lit comment elle dépeint les États-Unis, c'est à se poser la question. Eh bien, dans ce nouveau roman, L'âge des possibles, on embarque avec elle et ses deux personnages dans un Rumspringa. Vous savez ce que c'est, les Rumspringa, Emmanuel?
Non,
ce
pas du tout.
Ce sont les plongées des jeunes Amish dans le vrai monde. Comme ça, après, quand ils retournent à leur foi, eh bien, ils sont sûrs de ce qu'ils font.
Ah oui.
Et on va suivre les personnages dans ce roman d'apprentissage qui est plein d'émotions, qui brasse autant de réponses que de questions, sans forcément que les unes aillent avec les autres.
L'âge des possibles aux éditions L'École des loisirs. Merci Déborah. Yasmina en Suisse, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule. Nous venons de passer la vague des ventes d'ouvrages scolaires. Et en ce moment, nous vendons les livres prescrits par les enseignants de littérature. Et comme chaque année, nous nous trouvons en rupture de stock dans plusieurs titres. Donc, je suggère que les enseignants soumettent leur liste de livres aux librairies régionales avant la rentrée scolaire. Ceci nous permettra d'être tous ensemble plus efficaces en anticipant les commandes afin de satisfaire aussi bien les profs que les élèves.
Exactement. En France, Rosine Vosa, du côté de la Martinique, un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur pour la fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, je crois que ça se prononce comme ça, aux éditions Point. Alors c'est un essai au titre provocateur qui dénonce, preuve et expérience à l'appui, les conséquences désastreuses de la surconsommation précoce des écrans sur la santé et sur les capacités d'apprentissage des enfants. C'est un livre rigoureusement scientifique, mais très accessible. Et après l'avoir lu, vous ne regarderez plus jamais vos tablettes comme avant.
La fabrique du crétin digital, un livre de poche aux éditions Point, et qui avait reçu d'ailleurs une mention spéciale du jury au prix Femina 2019 dans la catégorie essai. Merci Anne-Rosine Vosa. Katia Courteau, un coup de cœur au Canada.
Plutôt un coup de gueule.
Un coup de gueule, pardon. Allez-y, comme vous voulez.
Oui, un coup de gueule pour, en ce qui concerne la littérature jeunesse. On voit parfois certains éditeurs très fiers de nous présenter leur nouvelle collection d'albums conceptualisés, fraîchement pondus, avec l'aide de psychoéducateurs. Bon, j'ai rien contre les psychoéducateurs, mais je préfère de beaucoup remettre à un tout petit une réelle œuvre d'art, de la littérature qui mérite ce nom, des livres qui se gravent à même le cœur.
Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à toutes les quatre d'être intervenues aujourd'hui. On termine avec l'extrait d'une musique numéro un quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici le chanteur malien Afel Bokoum.
Je sais, tu sais, nous savons danser au rythme de la musique. Ainsi va la vie maintenant, dansons, chantons ensemble. Ainsi va la vie maintenant, dansons, chantons ensemble. Tous les cœurs remplis de joie, dansons, chantons ensemble. Tous les cœurs remplis de joie, dansons, chantons ensemble.
Allez, 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 allez. Maintenant, ensemble. Attention, attention un peu. Tu m'as fait entendre parler ça. Et tu travailles à la première colline. Eh bien, attends-moi là-bas. J'arrive, hein.
Jamais,
C'était Afel Bokoum avec un extrait de Avion numéro 1 en ce moment au Mali. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Stéphane Combe avec Fabrice Desmaz. Merci à Antoine Beneteau. Merci beaucoup Laurent Binet, Gaël Faye. À bientôt. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix en Suisse. René Mikils avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada et Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, le retour de Laurent Godet, une pépite littéraire ivoirienne et la belge Mathilde Allais. N'oubliez pas la version télé de la librairie francophone ce dimanche à 19h sur TV5 Monde et sur tv5monde.com notamment. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions des deux dernières saisons sur la nouvelle plateforme TV5 Monde Plus. Bon week-end à tous, donc avec notre version télé, vous avez de quoi regarder et bonne semaine. À bientôt, salut.